Radio Classique, les spécialistes.
Les spécialistes avec le monsieur international de Radio Classique, j'ai nommé Emmanuel Faux. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Renaud.
On s'intéresse ce matin à la situation en Russie qui a été touchée par la pandémie plus tard que l'Europe occidentale. Et il y a quelques jours, Vladimir Poutine a annoncé aux Russes une mesure pour le moins originale.
Oui, la Russie se met au chômage total pendant tout le mois d'avril. C'est à la fois massif et radical. Une décision prise par le chef du Kremlin qui a donné l'ordre que les salaires soient maintenus, ce qui revient à demander aux patrons russes d'offrir un mois de congés payés à leurs salariés. Or, pour de nombreuses entreprises, la charge risque d'être beaucoup trop lourde et certaines PME, d'ailleurs, ont déjà prévenu qu'elles ne pourraient pas assumer un niet face aux mesures d'aide de l'État qui sont jugées nettement insuffisantes, comme les prêts à taux zéro ou le crédit d'impôt. Toutes les professions, a priori, sont appelées à couper le moteur, sauf celles qui pratiquent le télétravail, les administrations et quelques industries stratégiques. Concrètement, Vladimir Poutine délègue aux gouverneurs de chaque région le choix de maintenir ou non certaines activités en fonction des besoins locaux. Un régime différencié qui peut s'expliquer par le fait que la Russie, vous le savez, est le pays le plus vaste du monde, puisqu'il s'étend sur 11 fuseaux horaires, et la situation sanitaire à Saint-Pétersbourg n'a rien à voir, bien sûr, avec celle de Vladivostok ou celle de la Sibérie où le virus n'est toujours pas arrivé. Dans la presse russe, certains analystes s'amusent tout de même de voir le chef du Kremlin redécouvrir les vertus de la décentralisation à l'occasion de cette crise. Lui qui, pendant 20 ans, a bâti un système de décision complètement vertical et centralisé. Certains se demandent même si le président ne cherche pas à mouiller les gouverneurs des régions au cas où l'épidémie prendrait une mauvaise pente.
Emmanuel, pour l'instant, on ne sent pas de grosses inquiétudes des autorités russes face au virus.
Non, aucune fébrilité, aucune panique au sommet. Vladimir Poutine a même surpris il y a quelques jours en visitant un hôpital de la banlieue de Moscou où il a serré la main du médecin-chef. Il a même pris l'ascenseur et discuté avec lui sans masque. Or, quelques jours plus tard, le même médecin-chef a été déclaré positif au coronavirus. Alors bien sûr, tout est fait pour protéger le président russe qui dirige le pays par visioconférence de sa datcha moscovite. Mais sa dernière intervention à la télévision a laissé le pays sans boussole. Pas de mobilisation générale contre la pandémie, un confinement à la carte, là encore selon les régions et selon les densités de population. La seule nouveauté est une lueur d'espoir scientifique, avec l'annonce hier du grand centre de recherche Vector, qui a fait savoir au Kremlin qu'il serait prêt à tester 3 vaccins contre le Covid-19 sur des humains. Une première phase de tests expérimentaux pourrait avoir lieu à partir du 29 juin sur un échantillon de 180 volontaires. Alors la Russie n'est pas vraiment en pointe en matière de confinement. En revanche, elle cherche toujours à l'être en matière de recherche, un peu dans la fidélité à l'esprit de Yuri Gagarine.
Merci Emmanuel pour ces précisions concernant la Russie. On va passer à l'économie avec vous Fabrice. Alors que Donald Trump menace de suspendre la contribution américaine à l'OMS dénonçant sa gestion de la pandémie, eh bien c'est le fondateur de Twitter qui annonce cette nuit qu'il va donner $1 milliard pour participer à la lutte contre la pandémie.
Ah ouais, Jack Dorsey, il explique hier soir dans une série de tweets que cette somme représente 28% de sa fortune, estimée par Forbes pas à plus de $3 milliards. Le patron de Twitter se justifie. La vie est trop courte. Faisons donc tout ce que nous pouvons pour aider les gens maintenant. Et c'est vrai que dans un pays meurtri comme les États-Unis, plus de 2000 morts, vous le redisiez donc avec Eric Mauban à 7h30, le milliardaire veut venir en aide à ceux qui, ayant perdu leur travail, se retrouvent dans les plus grandes difficultés pour se soigner, se nourrir, se loger. Et une première subvention de $100 000 sera faite vers le Fonds alimentaire américain. Il y a Jeff Bezos également, l'homme le plus riche au monde. Vous savez, c'est le patron d'Amazon, dont l'activité d'ailleurs a bondi dans cette période où de très nombreux magasins sont fermés. Lui va donner $100 millions aux banques alimentaires américaines. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, et sa femme Priscilla Chan, qui offre $25 millions pour la recherche de thérapie. Et puis c'était dès le début du mois de février, dès le début de l'épidémie, Bill et Melinda Gates, avec leur fondation, qui avaient débloqué $100 millions dans la recherche d'un traitement, somme portée un mois plus tard à $125 millions. L'ancien patron de Microsoft, qui s'est engagé aussi à distribuer des tests auprès de la population de Seattle, où se trouve justement le siège de Microsoft.
Alors Fabrice, mobilisation des grandes fortunes américaines, mais aussi celle des milliardaires d'un continent touché, dans une moindre mesure, l'Afrique.
Eh oui, parce qu'on connaît moins bien leur nom, mais ils figurent dans le classement Forbes des plus grandes fortunes mondiales. C'est le cas du Nigérian Aliko Dangote, l'homme le plus riche du continent. C'est le roi du ciment. Folo Runso Adikidja, vous ne la connaissez pas non plus, c'est la première fortune féminine du Nigeria. Elle dirige un groupe pétrolier dans ce pays le plus peuplé en Afrique. Mike Adenuga, fondateur de Globacom, c'est les télécoms, deuxième fortune du continent. Les dons pour des traitements, des masques, de l'hygiène, alors ils sont plus modestes que leurs homologues américains, mais se comptent quand même à chaque fois en dizaines de millions de dollars. Le pays le plus puissant économiquement, c'est l'Afrique du Sud. Il est d'ailleurs le plus touché par la pandémie en Afrique. Les familles Rupport, Oppenheimer, ce sont des produits de luxe, des diamants, qui donnent aux petites entreprises, pour leurs employés également touchés par la pandémie. Au pays de la première place boursière, Casablanca, donc le Maroc, le milliardaire Othman Ben Jelloul, le président de Bank of Africa, y met la main au portefeuille. Même chose en Algérie, la première fortune du pays, c'est Issad Redbrab, à la tête du conglomérat Cevital. C'est de l'industrie, de l'alimentation et des services. Mais tous en Afrique ne sont pas aussi généreux. Dans certains pays, Égypte, Kenya, Ouganda, les grandes fortunes sont interpellées pour qu'elles donnent, plus ou moins spontanément, où sont nos milliardaires, voit-on fleurir sur Twitter ou ailleurs.
Merci Fabrice. Fabrice Lundy, vous retrouverez dès 7h pour la page économie de notre journal, de notre matinale sur Radio Classique. Bonjour Bernard.
Bonjour Renaud.
Bernard Sananès, le président des Labs, avec un sondage tout chaud sur les Français et le coronavirus. Bernard, avec deux semaines de baisse, la confiance accordée à l'exécutif pour gérer la crise se stabilise et elle est cette confiance de 43%.
Oui Renaud, mais il faut dire qu'elle se stabilise, c'est vrai, vous avez raison, mais à un niveau minoritaire. Une majorité de Français ne fait pas confiance en l'exécutif pour gérer la crise. Et il faut aussi le comparer à ce qui se passe par exemple à l'étranger. Angela Merkel dispose sur quasiment la même question d'un soutien de plus de 7 personnes vivant en Allemagne sur 10. Alors c'est vrai que cette confiance avait beaucoup reculé pour Emmanuel Macron les deux dernières semaines et que là, c'est une forme de stabilisation. On est dans le dur de la crise, et même s'il n'y a pas, je disais déjà la semaine dernière, d'effet d'unité nationale, il y a peut-être un souhait de ne pas avoir de polémique excessive. On note quand même que le jugement sur la confiance dans la gestion de crise est extrêmement clivé politiquement. Les lignes ne bougent pas, ce sont les lignes traditionnelles du jugement sur l'exécutif.
Oui, donc on le rappelle, moins d'un Français sur deux fait confiance à Emmanuel Macron et Édouard Philippe pour gérer la crise. L'inquiétude, Bernard, vis-à-vis du virus reste très élevée chez nos concitoyens.
Oui, elle reste très élevée, 8 Français sur 10, c'est évidemment très important. On note quand même qu'elle est un peu moins élevée que la semaine dernière et notamment qu'elle recule un peu en intensité. Vous savez, la part des Français qui sont très inquiets chute de 13 points. Alors pourquoi ce léger recul de l'inquiétude? Sans doute parce que la situation à l'étranger, notamment en Italie, en Espagne, que les Français suivent beaucoup, peut donner le sentiment qu'il y a aujourd'hui un espoir. Et puis une lecture, alors certains la contesteront, mais une lecture optimiste ou que les Français veulent voir optimiste des chiffres, alors que Jérôme Salomon a rappelé hier qu'il s'agissait simplement peut-être d'un ralentissement de l'aggravation, mais pas encore d'une stabilisation. Donc tout cela, effectivement, maintient l'inquiétude à un niveau élevé, mais donne le sentiment que cette inquiétude est légèrement moins forte que la semaine dernière.
Oui, le moral reste bon quand même des Français.
Oui, alors ça c'est effectivement étonnant et rassurant. La société française, on l'a dit dans d'autres circonstances, montre une nouvelle fois, semble-t-il, sa capacité de résilience. Deux tiers des Français nous disent qu'ils ont bon moral, voire très bon moral. Il y a plusieurs explications à ça. D'abord, on est comme toujours dans une sorte de cocon familial personnel qui protège. Les Français y sont très attachés. Et deuxièmement, le confinement aujourd'hui apparaît comme la seule mesure qui protège vraiment. Mais les Français ne sont pas abattus, ils sont bien sûr inquiets, vous l'avez dit Renaud, mais ils sont aussi dans les mots, on leur demande de qualifier un peu leur semaine, ils sont occupés, ils sont actifs, ils se disent confiants, entourés. Donc on voit bien qu'on s'installe dans le confinement. Pourquoi c'est important? C'est important parce que quand l'exécutif va annoncer, c'est très vraisemblable dans la semaine, le report de la date du confinement, oui, il peut compter là-dessus, dans l'opinion, encore une fois, sur une forme de soutien à cette mesure et une forme d'acceptabilité sociale qui reste assez forte et c'est surprenant.
Alors justement, vous parliez du confinement, respecter ce confinement, que dit votre enquête Bernard sur ce point ?
Alors, que disent les Français, que déclarent-ils, hein? Parce qu'il faut évidemment savoir lire les enquêtes. Quand on leur dit « est-ce que vous êtes plus ou moins sorti de votre domicile ces derniers jours ?», il y a moins d'un Français sur dix qui nous déclare qu'il est plus sorti de son domicile. Un Français sur dix, ce n'est pas négligeable. Alors, quand on pose la question différemment, est-ce que ce confinement, ces personnes qui se relâcheraient, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que c'est compréhensible ? 14% des Français disent que c'est compréhensible. Donc, vous voyez, entre le 8 et le 14, il doit y avoir là un équilibre de gens qui ne veulent pas dire qu'ils sont sortis plus souvent. Ça veut dire, grosso modo, si je lis les deux chiffres, si vous fiez à mon interprétation, que voilà, autour d'un Français sur 10, sans doute, cette dernière semaine, a relâché le confinement, ce qui est très important et ce qui, évidemment, les autorités sanitaires l'ont dit, ce qu'il ne faut pas faire.
6 Français sur 10 favorables au port du masque pour l'ensemble de la population.
Oui, alors cette question, l'opinion se prépare au port du masque. Se prépare au port du masque pour la sortie du confinement. Comme le confinement apparaît aujourd'hui comme la seule mesure protectrice pour éviter la propagation, eh bien le masque apparaît finalement, en l'absence de vaccins et de traitement médical, comme la seule solution qui pourrait protéger au moment du déconfinement. Et face à cette question des masques, là on a évidemment un objet de critique très fort de la gestion de crise. On a plus de 6 Français sur 10 qui considèrent que l'encouragement à porter le masque a été trop tardif. Là aussi, des clivages politiques, mais pas seulement. Hein. 2/3 des Français, ça veut dire que cette critique est assez partagée.
Et il nous reste quelques secondes, mais Bernard, ce qui est assez intéressant, c'est qu'un quart des Français ont essayé de fabriquer eux-mêmes un masque.
Oui, c'est le grand retour du système D. Hein. Il y a à la fois 43% des gens qui ont essayé de s'en procurer par leurs propres moyens, alors qu'on sait que c'est très difficile. Et effectivement, ce quart de Français, on le voit hein, dans les médias, on le voit sous les images, on voit toutes sortes de masques. Ça dit aussi effectivement ce regard porté sur ce qui est devenu le masque, ce symbole de l'impréparation du pays à la gestion de crise. On l'a dit, la critique est forte et cet objet qui n'a pas une forte valeur ajoutée technologique, le masque, ce n'est pas des respirateurs, ce n'est pas des produits à forte valeur ajoutée, eh bien c'est devenu aussi le symbole d'un pays qui pensait qu'il avait le meilleur système de santé du monde et qui se dit aujourd'hui que ce système de santé, bien sûr, il résiste grâce aux soignants, mais qu'en termes d'équipement, il n'était pas tout à fait prêt.
Merci beaucoup Bernard d'avoir commenté ce nouveau sondage Elabe sur les Français face au coronavirus. Il est 7h51 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, deuxième partie, la page culture.
Comment répondre aux enjeux alimentaires d'aujourd'hui et de demain? Quelle place pour l'innovation dans l'agriculture? Comment produire plus et mieux? Fabrice Lundy y répond dans l'intelligence alimentaire en question, chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Un programme proposé par Invivo, premier groupe coopératif agricole français.
Radio Classique.
Renaud Blanc sur Radio Classique.
Et nous accueillons le monsieur cinéma de Radio Classique, Bruno Kras. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Alors on s'attend à un été, je vous cite quand vous m'avez appelé hier, un été meurtrier à Hollywood, c'est-à-dire Bruno?
Ben vous savez, à Hollywood, contrairement à la France, c'est l'été, la saison du cinéma. C'est l'été des blockbusters. Il y a les grosses sorties qui rapportent d'ailleurs au passage quelques milliards de dollars. Mais ben là, par quelques exceptions, tout est reporté. Je vais vous donner 3 exemples. La Paramount devait sortir Top Gun, la suite du film d'il y a 34 ans avec Tom Cruise. C'est repoussé à novembre prochain, à décembre prochain même. Disney avait un film Marvel, Black Widow, repoussé au 6 novembre 2020. Et puis Sony, qui avait un film de la saga SOS Fantôme, est repoussé à mars 2021. Donc vous voyez, ça va être la catastrophe cet été pour Hollywood, pour tous les cinémas du monde, mais pour Hollywood, c'est cher,
alors,
je peux le dire.
Une bonne nouvelle quand même, cette fois-ci pour la France, avec une offre cinéma qui se généralise.
Oui, absolument. Vous savez, le CNC a décidé en urgence de supprimer le délai de 4 mois des films qui sortent en salle. Normalement, il y a un délai de 4 mois pour qu'on puisse les voir en VOD. Et bien là, tous les films pourront être vus en VOD immédiatement, dans les films qui allaient sortir ou qui venaient de sortir. Il y a 31 films, moi j'en ai choisi quelques-uns. Papy Sitter, qui est une comédie de Philippe Guillard, très chaleureuse et très drôle, avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal. L'Esprit de famille, avec Guillaume de Tonquédec. Et côté américain, il y a quand même le Clint Eastwood, qui était sorti 19 février et qu'on aurait pu voir en VOD qu'en juin, et ben il sort. Vous pouvez le voir sur une plateforme, le cas Richard Jewell. Et puis évidemment 1917 qu'on aurait pu voir qu'en mai, puisqu'il est sorti le 15 janvier dernier, 1917 de Sam Mendes. Vous pouvez le voir en VOD.
Alors Bruno, le cinéma, c'est à la télévision en ce moment. Votre sélection pour les auditeurs de Radio Classique.
Ce soir, sur France 4, rien que pour vos yeux, on voit beaucoup de James Bond en ce moment. James Bond de 1981 avec Roger Moore et une jolie française, vous vous souvenez, Renaud, dans Rien que pour vos yeux? C'était Carole Bouquet, eh oui.
Carole Bouquet, effectivement, oui, c'est vrai. Je cherchais.
Qui avait 24 ans à l'époque, voilà. Dimanche 12 avril, alors faut attendre 5 jours là, moi jusqu'à dimanche il n'y a pas grand chose, mais alors dimanche ça va être la bagarre dans les familles. Sur France 2 on a La Folie des Grandeurs avec Yves Montand, Louis de Funès. Sur Arte, Barry Lyndon, un grand classique de Kubrick qui date de 1975. Sur C8, Deux Clapiches pour le prix d'un, L'Auberge Espagnole et Les Poupées Russes. Et sur France 4, un autre James Bond, Goldfinger, qui date de 1964, c'est le troisième James Bond. À propos des James Bond, c'est nous la France qui allons avoir le film. Il devait sortir en avril, on l'aura le 11 novembre prochain. La date est arrêtée et la France sera le premier film à offrir ce James Bond. Lundi 13 avril, notez bien, c'est dans 5 jours.
Bruno.
L'Armée des Ombres, lundi 13 avril. Paris, Texas et Un Dimanche à la Campagne, le bijou de Bertrand Tavernier. Vous voyez, il y a quand même de quoi voir des très beaux films.
Et cet après-midi, figurez-vous qu'il y a quand même Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rapneau, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, 88 ans. On lui doit Cyrano, on lui doit Le Sauvage, Les Mariés de l'an 2, mais aussi, rappelez-vous, en 1966, La Vie de Château et la musique était signée Michel Legrand.
Super.
La musique de Michel Legrand pour accueillir Élodie. Bonjour Élodie.
Bonjour Renaud, bonjour à tous.
Alors on va parler théâtre avec vous et le grand public ne connaît pas toujours son nom, mais c'est un grand monsieur du théâtre qui nous a quittés hier.
Il aura été comédien, 300 interprétations, metteur en scène, 150 pièces, mais son plus grand rôle aura été sans conteste celui de professeur. Jean-Laurent Cochet est effectivement décédé à 85 ans des suites du Covid-19 après 5 jours d'hospitalisation à Bichat. Un professeur d'art dramatique absolument légendaire entre les mains duquel seront passés Gérard Depardieu, Isabelle Huppert, Fabrice Lucchini, Daniel Auteuil, Emmanuel Béard, Richard Berry, Dussolier, Reynaud, Carole Bouquet, dont Bruno Kreis parlait à l'instant, jusqu'à Maxime d'Abbeville, encore tout récemment, puisque Jean-Laurent Cochet continuait à enseigner 50 ans de pédagogie dans le cours qui portait son nom et qu'il avait fondé en 1976.
Et lui-même avait eu de très grands professeurs.
Oui, il est né en 1935 à Romainville et très tôt il se tourne vers le théâtre avec en effet des professeurs à l'ancienne, dépositaires de la grande tradition classique, notamment Béatrix Dussane. Il entre comme pensionnaire à la Comédie Française en 59, il y reste 8 ans, une autre façon de faire ses classes avant d'ouvrir la sienne. Il acquiert là-bas la connaissance absolument parfaite du répertoire. Il croyait au travail, Cochet. Il disait « le talent, ça n'existe pas ». Articuler, respirer, chercher la maîtrise absolue du verbe, recommencer comme un pianiste qui fait ses gammes, c'était là la clé pour lui. Auteuil, Depardieu, Huppert, les plus grands sont ceux qui l'ont compris. Il faut travailler. Écoutez-le, Monsieur Cochet, parler de ses élèves qu'il considérait, je dirais, avec la tendresse d'un père, un père qui a des enfants.
Tous ceux dont on parle, c'est ça qu'il faut pas oublier. Même ceux dont on dit, oh, ils étaient doués, etc. Ça n'a aucun sens. Ils ont travaillé. La première fois que j'ai dit à Depardieu, tu vas travailler Néron, tu vas travailler Perdican, ils avaient jamais pris de cours, ces gens-là. Donc, ils ne savaient pas qu'on travaillait la scène principale du rôle. Ben, ils sont arrivés avec le rôle entier appris. Ah oui. Et puis, il y a eu un amour pour le travail.
Voilà, Jean-Laurent Cochet, dans une interview accordée à France Télévisions. Lucchini a dit dans un tweet, hommage, que Cochet avait bouleversé sa vie.
Oui, mais je crois que nous tous qui enseignons à la maison en ce moment, nous commençons à le comprendre. Vous savez, savoir transmettre Renaud, c'est un art et c'est peut-être le grand art.
Merci beaucoup, Élodie. Il est 7h57 sur Radio Classique. Nous refermons cette page culture et nous allons accueillir dans un instant Pierrick Fay pour son décryptage.